Oui, bah.
Bon, de l'argent pour les enfants qui ont été tués à ça.
Il n'y a rien de nouveau.
Tu veux faire.
La France, ils vont bien.
Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma na assez. On continue à notre. On va continuer notre guerre et on va continuer à battre notre ennemi. On va repousser l'obscurité et on va allumer la lumière. C'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'on va faire.
On va faire bouffer.
Eh bien, amen, amen, on va encore plus grand.
Comment on peut faire pour plus qu'ils reviennent? On les a envoyés en Égypte, à moitié en Jordanie.
Et... jamais je flito.
Selon les Européens, les Américains, ils ne veulent pas. Ils veulent créer un État à tout prix. Hein.
Qu'est-ce que je vais faire?
Ido Netanyahu, le frère de Bibi, il a été interviewé hier sur la hausse à Arbaestré. Il a dit qu'ils veulent après que qu'il est question de après de que quand comment il s'appelle Gantz devient premier ministre, qu'on refasse Oslo et qu'on revienne à un pays sans Yehuda Vechomron. Et il dit, c'est pas possible un pays sans Yehuda Vechomron, parce que Yehuda Vechomron, c'est les harim, c'est ce qui garde le pays.
Enfin, c'est pas un chidouche, hein. De toute façon, je vais te dire, c'est pas comme si... mon avis là-dessus, il est assez tranché. Je pense qu'à la fin de cette guerre, c'est tous les députés qui doivent partir à la maison.
Et tout est à revoir.
Tous.
Ouais.
Même les 54 qui ont pleuré quand ils ont vu le...
Ils ont pleuré, c'est de leur faute, qu'est-ce que tu veux faire? Tout est racouve. Il y a un gros truc à faire. Alors, je ne sais pas si ça va être fait. Mais une chose est sûre, je n'ai pas plus confiance en Bibi Netanyahu qu'en Bibi Gantz.
Justement, il n'y a pas un risque avec ça que la gauche va devenir
ça. C'est tous pareils. Ils sont tous pareils. Ce qui s'est passé il y a 3 semaines, il y a un mois maintenant, ce qui s'est passé il y a un mois, c'est l'échec total de toute la conception israélienne, qu'elle soit de gauche ou de droite. Donc, ce truc de dire « Non mais attention, t'as pas peur qu'en disant ça, la gauche revienne au pouvoir ?» Mais la gauche, elle est au pouvoir. Il n'y a pas de droite ou de gauche. Il y a un concept occidental qui est au pouvoir, et il est mauvais. Mais couda, c'est pas une question de gauche ou de droite. Monsieur Netanyahu qui s'est présenté toute sa vie comme étant l'homme de la sécurité, ouais, voilà. Il y a un moment donné, tu peux pas continuer à dire tout et n'importe quoi.
Ouais, mais l'a bluffé aussi, il lui a dit, mais moi,
Allez.
Alors qu'est-ce que c'est?
Allez. L'armée, elle a bluffé. Tous les responsables de l'armée aussi doivent aller à la maison.
Ouais, voilà.
Mais c'est évident. Mais il y a un moment donné, il y a un chef.
C'est
tout.
Ils vont pas faire la même chose avec Hezbollah. Enfin, tant que c'est le droit
d'attaquer quand ils veulent. Voilà. Donc, voilà. Malas. Ils
font pareil, Hezbollah.
Manassé. Donc, nous, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye de, en bas, par le fond, par le peuple, essayer de, d'éduquer à une morale juive, à une pensée juive, et à une réussite juive, Bezrat Hashem. Amen. Donc, on est dans le livre de Horoth, du Rav Avraham Yitzchak Kohen Kuk, dans la partie Horoth HaTechiya, dans le chapitre 15. C'est la morale. Tom, chapitre donc Tedvav, page Samer Zain. Ok, chez Korach Israël. Ok, alors allons-y. Que chez Korach Israël Gadol. Venishmato meira bekirbo. Lorsque la force du peuple juif est grande et que sa neshama s'exprime en son sein, beofa ve'anafav amasim ve'zra. בקרבו בהופעה, וענפיו מעשים מתוקנים, בסידור מלא, בקדושה, בייחוד ובברכה, במקדש ובממשלה, בנבואה וחוכמה, אז... לא, deux secondes. C'est un paragraphe qui est très très important dans la pensée du Rav Kook, mais il faut bien le comprendre, pas essayer de faire des raccourcis. Dis le Rav, lorsque le peuple juif est fort...
Donc, moi j'aurais préféré qu'il dise, lorsque le peuple juif, il y a l'Achdout.
Non mais attends, il a pas dit que ça, deux secondes. Lorsque le peuple juif est fort, et que sa neshama, la neshama du peuple juif, s'exprime, donc ça fait partie aussi de l'Achdout. Attends deux secondes. Et que la façon dont on gère notre société est juste, metoukan, que le bitoir leumi marche bien, que les institutions gouvernementales, elles ne sont pas dirigées par des corrompus, qu'on ne nomme pas des mecs à des postes uniquement pour faire plaisir, mais qu'on nomme des vraies personnes qui sont compétentes. C'est-à-dire, donc, lorsque le peuple juif est fort, que sa neshama s'exprime, que ses actions concrètes sont metoukanim, besidur malé, bikdusha beyichud ubivracha, yesh kdusha be'am Israël, yesh bracha be'am Israël. Pourquoi? Parce que on est mityachasim à Kadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte qu'on mette un peu plus Dieu dans l'histoire? Il y avait une technique. Aux États-Unis, il y a une technique, c'est qui marque le nom de Dieu sur tous les big banks.
L'œil.
Non, pas l'œil. Il y a marqué « In God we trust ». Nous croyons en Dieu. Il suffit, pas besoin de marquer de faire un œil. Nous croyons en Dieu. Que lorsque vous avez aux États-Unis un juge, un nouveau parlementaire, un président qui rentre en fonction, il doit prêter serment sur la Bible. La Bible. Tu peux faire entrer. Alors, nous, dans le peuple juif, on a eu un problème avec ça, parce que il fut un temps où on écrivait le nom de Dieu sur les shtarot, sur les shitrechov. C'est-à-dire que je te dois 100 shekels, alors je marque au nom de Dieu, je te dois 100 shekels. Et comme ça, les gens, c'était sérieux, mais il y avait un problème. Les chachamim, ils ont dit, c'est pas bien de faire ça. Parce que une fois que j'ai remboursé ma dette, on doit déchirer. On doit déchirer le papier, parce que sinon après tu vas dire, ah, tu m'as pas rendu. Ben vas-y. Donc on doit déchirer le papier. Là, ça voulait dire qu'il fallait déchirer le nom de Dieu. Donc les Chachamim, ils ont interdit de marquer le nom de Dieu sur les chitrechov. Mais les billets de banque, on les déchire pas. Alors moi, je propose que sur tous les billets de banque, on marque Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Après, tu mets la photo de quelqu'un d'autre. Mais d'abord, Shema Israël, la malo. Ça a l'air? Bemigdash ou bememshala. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'Am Israël soit totalement maître de lui-même? On a besoin du Bet Amigdash et d'un état fort. C'est-à-dire, l'un ne va pas sans l'autre. Binevoa ve chokma. Lorsque la chokma, ça, ok, mais la nevoa, la prophétie, elle revient également. Donc, dès qu'on a tout ça, imaginez-vous deux secondes, un état fort, organisé, qui n'a pas honte de parler de Dieu, dans lequel résident des prophètes, c'est-à-dire, et qui est juste. Bon, c'est un état bien, ça. Dans un cas comme ça, et que le Beth Amikdash, évidemment, il est créé, dans un concept comme ça, « Az a itrachavut le tzad achol » לעינוגי החושים הרוחנים והגשמיים, להצצה חדירה ופנימית לתוך חייהם של המון העמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם, התגברות עוז החיים הטבעיים, כל אלה טובים הם ומסוגלים להרחיב את האור הטוב והתחום ארוך הוא. י' ב' מיל כמחנה ישראל כולו, וכפל באמת את כל העולם באיכותו. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. בואו, עוד קרום פעם. נדיד לו אפקוק, לא סקו לפוי. נדיד לו אפקוק, לא סקו לפפל ג'ויף est en pleine possession de ses moyens. Là, aujourd'hui, par exemple, on est en moitié de possession de nos moyens. On a un État fort, on a des institutions, certaines marchent moins. Mais on n'a pas encore le Beth Amikdash, on n'a pas encore la Névoie. Donc on est en chemin vers ce qu'il est en train de nous décrire. Mais il dit, si tu arrives à un État au top, alors le fait de s'agrandir vers le monde du Chol, vers les kiffs spirituels et matériels. Oui, le kiff matériel, c'est quoi ? C'est quoi un kiff matériel ? Bah, par exemple, une bonne entrecôte. Pas, ça peut être chacun son.
C'est
un kiff matériel. Il y a des kiffs spirituels. C'est des gens qui aiment beaucoup lire des romans qui les transportent. Ce sont des kiffs spirituels. Et il y a des gens qui aiment se faire un bon burger. C'est des kiffs matériels. C'est-à-dire, ben, lorsque le peuple juif est au top comme il a besoin d'être, alors l'élargissement vers le chol, vers le kiff spirituel, le kiff matériel, le fait d'être capable aussi d'aller regarder ce qui se passe et puiser des choses chez les goyim, les amon ha'amim ou les umim shonim, de regarder comment ils agissent chez eux, de voir quelles sont leurs littératures. Le fait de se tourner vers les forces naturelles, le tioul, tout ça, kol ele, tout ça, tovim hem, zetov, ou mesugalim le arrive et aor. Et c'est ça qui permet d'agrandir la lumière divine dans ce monde. Veatrum arochu, et on permet d'augmenter le troum Shabbat. Qu'est-ce que le troum Shabbat? Que normalement le Troum Shabbat c'est Yud Bet Mil. Qu'est-ce que c'est Troum Shabbat? Non, oui, non. On est tous, non, oui. On ne dit pas.
On peut circuler le Shabbat.
Là où, c'est ce qu'on remet dans plus de 1000 amot.
Voilà.
En dehors de la ville et on met là-bas.
Donc c'est-à-dire que c'est.
De refaire encore,
donc c'est l'endroit où je peux continuer à me balader sans... à l'extérieur de la ville. Ok? Il y a une limite, combien c'est ?
2000 amot.
2000 amot, comment c'est en 1000 ? En 1000. Ça fait à peu près 1000. Ouais. Après 1000, ok ? Mais c'est pas ça dans la Torah. Dans la Torah, le Troum Shabbat, c'est Yud Bet 1000. Okay. C'est 12 000. Ok ? C'est beaucoup plus grand. Alors, le Chazal,
ils ont
raccourci le Troum Shabbat. De peur que, tu connais, les classiques des Siyagim. Mais il leur a fou qu'en fait, c'est pas uniquement de peur que. C'est que Chazal, c'est une époque où on est bagalout. Az maktinim et aitrachavut. Mais quand tu es Bemachane Israël, à l'époque il y avait le Mishkan, Moshe Rabbeinu, machin, Troum Shabbat, et Gadol. Ok? Aitrachavut, le tzadachol. Donc, nous dit ici le Rav Kook, il y a plein de choses qui pendant 2000 ans était Mouktse Mihamat Mius. Ok ? Il y a plein de choses qui étaient considérées par le judaïsme comme étant Aïe, vaï, 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 vaï. C'est pas à nous, c'est le Gaïm. Ah oui ? Par exemple, qu'est-ce qui n'était pas à nous du tout ? La guerre. C'est pas à nous. Non, nous, on ne s'occupe pas de ça. Ou alors, qu'est-ce qui n'était pas à nous non plus ? La politique. Gaïm. Oui, j'ai dit, pendant 2000 ans, il y a plein de choses qui n'étaient pas, qui étaient mouktsées, on ne s'occupait pas de ça. On disait, c'est l'otov, c'est ma pile état Adam, c'est pas ça qui va nous permettre de nous attacher à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, où est-ce qu'on le trouve ? À la synagogue, au Beth Amidrash, maximum au centre communautaire, dans le restaurant kasher et dans l'école juive. Mais où est-ce que tu ne le trouves pas ? Ben, tu ne vas certainement pas le trouver. Dans le stade olympique.
Parce qu'on était répartis dans les
nations. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est exactement ça. Donc, il y a plein de choses qu'on a dit, ça c'est l'eau chez la nous. C'est chez la Goïm. Et effectivement, les Juifs qui sont un peu sortis vers ces choses-là, en deux secondes, ils se sont assimilés. Donc, évidemment qu'on a bien fait de dire, attends, il y a des barrières. Mais le problème, c'est que. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets une barrière pendant je sais pas moi, disons 2 ans. Pendant 2 ans, tu mets une barrière et tu dis, les gens, ils doivent mettre des masques et ils n'ont pas le droit de sortir à plus de 2 kilomètres et ils doivent se laver les mains avec de l'alcool gel. C'est des barrières. Des barrières difficiles, embêtantes. Qu'est-ce qui se passe au bout de 2 ans quand le corona est terminé? Qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens, ils enlèvent les masques. On enlève les masques. On arrête de se laver les mains. Bon, non, il y en a qui vont continuer de se laver les mains, mais... On arrête de laver les mains et on arrête d'avoir des limitations de réunions. Est-ce que ça s'est fait facilement d'enlever les masques?
Ouais.
Ben bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Ben parce que les gens, c'était pas naturel pour eux d'avoir des masques. On n'est pas au Japon. Donc c'était pas naturel. 2 ans, ok, c'est pas assez pour que ça devienne quelque chose qui est du domaine du permanent. Mais imaginez-vous maintenant, Khalila Vechaz, que pendant 100 ans, on met des masques. Que des générations naissent et meurent, il y a des masques tout le temps. Eh ben, ça devient normal d'avoir des masques. Et ces barrières ne sont plus des barrières, ça devient tout simplement la normalité.
On devient coréen.
Mais leur Cook, là, est-ce que tu vois ton Cook, il a écrit ça il y a 150 ans.
100 ans. 100 ans.
C'est bien 100 ans. Il y a 100 ans qu'il est mort.
Oui.
Et donc il a écrit avant.
Ah, il est mort depuis, là on est, ça fait 89 ans qu'il est mort.
Ça ne nous a pas empêché de passer une division dans le pays il y a 2 mois, avant les événements.
Je comprends Rabbi Eliaou, que vraiment.
Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce qu'il dit là, on a passé dans notre histoire des catastrophes avec les destructions des Beth-Amigdash et compagnie. Ça veut dire que le juif, il ne comprend rien du tout. Il ne comprend rien du tout. Non, il faut prendre des coups pour comprendre.
Alors, d'abord, on pourrait débattre de ça pendant longtemps.
Toute notre expérience, on a encore chez nous. Ou alors on déborde d'intelligence, on déborde de trucs, chacun va être chef et chacun c'est la panique. Et alors, tout ce qu'il écrit, c'est très bien ce qu'il écrit, mais en réalité, on ne voit pas ça.
Non mais 2 secondes. Je pense vraiment que ça t'a beaucoup marqué la division dans le peuple, et c'est bien, ça montre que tu es quelqu'un de bien. Mais là, en l'occurrence, ici, dans ce paragraphe-là, le Rav Kook ne parle pas du tout de ça. Ce n'est pas du tout de ça qu'on parle. Toi, tu dis, tu fais
conseil pour...
Non, il ne donne pas de conseil, là. Ce n'est pas, la question. Il n'est pas en train de te dire, ce serait bien d'eux. Il te dit comme ça. Lorsque le peuple juif est ce qu'il doit être, c'est-à-dire lorsqu'il a un état fort, juste, avec le Beth Amikdash, la prophétie, c'est-à-dire que lorsqu'on est au top, comme à l'époque de Moshe Rabbeinu, mais on sait bien qu'on n'y est pas encore, mais il te dit simplement, lorsqu'on a tout comme il faut, alors tu ne devras pas avoir peur d'aller t'ouvrir à d'autres choses. On parle de ça, là.
S'il y a le Beth Amikdash à notre époque,
oui.
Ça veut dire que il n'y a plus rien à... Les nations, ils sont tombés également.
C'est vrai, ils sont tombés. Le but du Beth Amikdash, c'est pas...
Nous, mais... Notre but à nous, oui. C'est de construire le Beth Amikdash.
Oui.
Quand il y a marqué dans la Torah, les carrés, ça veut dire qu'on arrive à un moment où il y a la paix dans le monde.
C'est bien. C'est très bien. Eh bien, nous dit le Rav Kook, quand on est dans une situation comme ça, bien sûr qu'on n'y est pas encore, mais lorsqu'on est dans une situation, mais ce n'est pas le débat là. Là, tu es en train de dire on n'y est pas encore, il faut la hardoute. C'est très vrai ce que tu dis, mais ce n'est pas ça. Là, il te dit, lorsqu'on est comme il faut, alors le fait d'aller regarder à l'extérieur de ce qu'on produit dans le Beth Amidrash, ce n'est pas négatif, au contraire. Et donc, j'explique que pendant 2000 ans, on était en exil, et pendant ces 2000 ans d'exil, eh bien, on a décidé qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas pour nous, qui étaient pour les goïms, parce que nous, on se concentrait uniquement sur les drachs, la politique, non, on ne veut pas regarder. La guerre, on ne veut pas regarder. La culture des goïms, on ne veut pas regarder. La littérature des goïms, on ne veut pas regarder. Le sport, Chasve Shalom, de s'occuper du sport. Le sport, c'est pour les Gaïm. Quel intérêt de pousser de la fonte? Nous, on tourne des pages de Gmaraz et il n'y a pas besoin de beaucoup de muscles. Les muscles, c'est pour les Gaïm. Ça va? Alors, donc, et je donnais mon exemple du corona de 2 ans ou de 100 ans. Lorsque tu as un corona pendant 2 ans et que ça s'arrête, bah, tu sais très bien que c'était une barrière, que ce n'est pas l'idéal, que c'était nécessaire parce qu'il y avait le virus, et que maintenant que le virus n'est plus là, bah, tu peux enlever la barrière parce que tu reviens à une vie idéale. Mais si pendant 100 ans, 500 ans, 1000 ans, tu vis avec des masques, bah, tu vas commencer à penser que les masques, c'est... Non, mais c'est ça l'idéal. C'est à un moment donné, tu te convaincs que le masque, c'est l'idéal. Que celui qui n'a pas de masque, il est complètement méchougué. Eh bien, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Durant 2000 ans d'exil, on avait... aimé, comment ça s'appelle Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll. Kitzo, je donne un exemple. Que c'est pas bien d'aimer le cinéma, que c'est pas bien d'aimer le sport, que ça n'a rien à voir avec la Kdusha, ça n'a rien à voir avec Kadosh Baruch Hu, que c'est pas bien d'aimer la politique, c'est pas bien d'aimer la littérature, c'est pas bien d'aimer... Tout ça, c'est... Ça montre que t'es pas un mec bien. Parce que le seul bien, c'est Toiré.
Bitoulzman. On était chez les goïbes, on a fait quoi mieux finalement?
Non.
Quand moi je suis venu au monde, je suis venu dans un monde...
Oui, mais mon ami, toi tu es venu au monde...
J'étais dans une école française.
Mais oui, mais ça mon ami, je t'explique pourquoi non. Je t'explique pourquoi non. Toi tu es né en Algérie, dans l'Algérie française. C'est hier. Tu as 2 ans. Toi tu as 2 ans.
2 ans.
Oui, tu as 2 ans à peu près, 2-3 ans. C'est pas plus vieux que ça. Parce que dans l'histoire du monde, l'Algérie française et l'émancipation, c'était hier. C'est-à-dire que tu as raison que les 150 dernières années, effectivement, les Juifs ont commencé à sortir. Et il y a eu énormément d'assimilation.
Mais il n'y a pas 150 ans l'exil.
Exactement, mon ami. Exactement. Eh bien, exactement. Yishmeu oznecha mashepicha medaber. C'est-à-dire, avant, prends il y a 500 ans. Il y a 500 ans, les Juifs, ils ne vont pas dans l'école française. Il y a 500 ans, les Juifs, ils ne vont pas sortir faire des travaux à l'université. Il y a 500 ans, les Juifs, ils vivent entre eux, dans leur shtetl, et ils sont tous au Talmud Torah. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 2000 ans, on n'est pas sorti et on n'a pas vécu dans un monde de goyim. On était enfermés entre nous. Il y a 150 ans, il y a 200 ans en vrai, l'émancipation a commencé et les Juifs sont sortis. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont sortis? Ben, il s'est passé exactement ce que je viens de te dire. Ils se sont assimilés. Et l'assimilation a commencé à partir de la Révolution française. Avant, il n'y a pas d'assimilation. Ok? Donc, c'est vrai que toi, tu as vécu, et mes parents, et on a vécu dans un monde de goïm et on était complètement à l'extérieur. Et ben, c'était très, très dangereux. Et ça n'a fait que renforcer la vie de ceux qui disaient, tu vois, si tu sors tes yeux 2 secondes du Beth Amidrash, tu vas devenir goy. Et donc, tu viens à développer un idéal que tout ce qui n'est pas du domaine de la Torah, de Toiré, c'est pas bien. Nous dit le Rav Kook. Non, c'est pas que c'est pas bien. C'est que quand tu es en exil, tu n'arriveras pas à élever ça et le rattacher à la Kedusha parce que tu es chez eux. Mais lorsque le peuple juif est chez lui comme il faut, alors les étincelles de sainteté qu'il y a dans le sport, dans la littérature, dans l'architecture, et bien tout ça, à des rabats, tu peux les lever.
Oui, mais à ce moment-là, on apporte nous l'exil ici.
Non, c'est Bidiou Kainian. Non, c'est exactement ça. Tu n'apportes pas l'exil, tu apportes que les choses bien de l'exil.
Mais ça, ça veut dire que c'est juste quand le Mashiach sera là avec le...
Alors, c'est ça toute la question. C'est est-ce que c'est... crescendo, ou est-ce que tant qu'il n'y a pas tout, on ne fait rien? Bon, le peuple juif, il a répondu à notre place, de toute façon, et il a décidé qu'il faisait crescendo. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que tant qu'il n'y a pas tout ce que le Rav Kook il a mis en place, il a dit là, genre, Sidour Malek, Dusha, Memshala, Mikdash, Nevoa, on reste dans le Beit HaMidrash. Dans les faits, le peuple juif, il n'a pas fait ça, et même le Rav Kook, il n'a pas prôné ça. Parce qu'on voit que dans son action à lui, par exemple, par rapport à l'inauguration de l'université Betzalel, il y a l'université Betzalel qui ouvre à Jérusalem. Et le Rav Kook, c'est lui qui va faire le discours d'inauguration de l'université de Betzalel. Le
Rav
Tzofim. Pas du tout.
Le
Rav Tzofim. Au centre-ville.
Ah.
Au centre-ville. Et donc, il fait l'inauguration. Maintenant, il y a un discours et il y a une lettre. Il ne va pas dire toute la lettre, heureusement, parce que sinon les gens ils se seraient enfuis. Tellement c'était long. Mais dans la lettre, il va d'abord leur expliquer pendant 3 pages les halakhot de quand on fait de la sculpture, quand on fait de la peinture, machin, pour ne pas tomber dans l'idolâtrie, nanana, nanana. Mais une fois qu'il a tout expliqué, qu'ils ne vont évidemment pas écouter, il dit quelle est la grandeur d'avoir une université de l'art. C'est extraordinaire que le peuple juif s'intéresse à l'art. Pour 2 raisons. 1, ça veut dire qu'il n'est plus en train de s'occuper de sa survie, mais il peut commencer à vivre. Parce que si tu t'occupes de faire des dessins, c'est que tu n'en es plus à assécher les marécages. C'est-à-dire que tu peux vivre maintenant. Quand tu as besoin de survivre, tu ne demandes pas à faire des dessins. Ça, c'est la première chose qui montre qu'on a avancé. Et deuxièmement, il dit, parce que l'art, c'est fantastique. Comment tu veux faire un Beit HaMikdash beau s'il n'y a pas d'architecte? Comment tu veux faire un Beit HaMikdash beau s'il n'y a pas de vitraux de Chagall?
On revient sur le fait que tout ce qui n'est pas etc. Donc par exemple là, il y a un intérêt à partir du moment où de toute façon il est dirigé
vers la Nahon. Ah bien sûr, à aucun moment c'est l'art polar, mais je vais te dire, il n'y a rien qui est...
Hein? Toutes les matières
rôles. Nahon. Toutes les matières chol, comme leur nom l'indique, elles peuvent être mechilot et akdusha. Le chol, c'est l'endroit où le kodesh peut lahoul, résider. Donc le chol, c'est l'endroit de la résidence du kodesh. Ok ? Si tu ne mets pas le kodesh dedans, alors c'est chaval, c'est que du chol. Ok ? Donc le rafou... Hein ? Non, de toute façon, je ne sais pas si ça pouvait être autrement. Le fait est qu'on a décidé que c'était crescendo. Dans les faits. Oui, par la force des choses, machin. On aurait pu décider que, on dit tant qu'on n'a pas fini de tout créer, on sort pas. Mais c'est pas possible. Ne serait-ce que, comment tu veux créer un État si t'as pas été étudié les sciences politiques? C'est pas possible. Comment tu veux créer un beau Beit HaMikdash si t'as pas étudié l'architecture et le Hitzouv? Comment tu veux créer une justice si tu sais pas. On est crescendo. Mais il faut se rappeler que l'idéal vient de ce genre de choses.
Mais le fait,
il
est qu'on a transporté quand même la galoute ici par la démocratie. La démocratie en Israël, dans le peuple juif, elle n'a jamais existé.
Ah bon ?
On a toujours eu des rois.
Ah ah ! Mais mon ami.
Or, la démocratie, elle n'est pas faite pour les juifs.
Alors, je suis désolé de te contredire. Je suis désolé de te contredire. Alors, je suis désolé de te contredire.
La meilleure preuve, c'est qu'il y a 2 mois, c'est encore
divisé. T'es resté bloqué à 2 mois, toi. Tu peux contredire ? J'ai le droit ? Alors, je vais essayer de te contredire gentiment. La première contradiction, c'est, elle est écrite il y a 700 ans. Il y a 700 ans, il y a un monsieur qui s'appelle Rabbeinu Asher ben Rabbi Yechiel, plus connu sous son abréviation, Aroche. Le Roche. Roche, c'est toute la halakha, le Roche. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Je suis prêt à écouter.
Le Roche, c'est bon. À Roche, Rabbeinu Asher ben Rabbi Yechiel, c'est le dernier des Tosafot. Vous connaissez les Tosafot ? Le dernier d'entre eux, c'est Rabbeinu Aroche. Et Rabbeinu Aroche, il est parti d'Allemagne, de France, et il est venu au Maroc. Pas mal. Il a été accepté par les Marocains. Pourquoi il a été accepté par les Marocains ? Parce qu'en chemin, il est venu, il a rencontré le Rashba, et ils ont discuté pendant une semaine ensemble, et le Rashba, il lui a écrit une lettre. Il a dit, là où tu vas, tu donnes cette lettre. et c'est bon, tout le monde t'acceptera. Et le Rosh, il dit, c'est un tzadik, c'est un gadol ador. Et donc le Rosh, il va arriver au Maroc, et il y a plein de minagim aujourd'hui des Marocains qui sont influencés des Ashkenazim, parce que le Rosh. Kitso, nous dit Rabbeinu Arosh, beklale apiska, bepiska, beklal dalet, que la démocratie, c'est din malchut. C'est un din de halakha de malchut. C'est kasher. La démocratie, c'est kasher, mais c'est malchut. C'est-à-dire que s'il y a un pays, si les juifs ils décident d'être démocratie, ça remplit le rôle de la royauté comme un roi. Oui, donc ça, mais... au niveau de la halakha, c'est moutard démocratie.
Il y a une contradiction.
Alors, deux secondes. Alors, c'est là que j'amène ma deuxième contradiction. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas de plus grand patron que Dieu ? Dieu, c'est le plus grand des patrons. On est d'accord ? Maintenant, Dieu, il décide que le roi, c'est David. C'est bon. Et Dieu, il dit à Shmuel, à Navi, va couronner David. Et Shmuel, il y va. Et il va mettre de l'huile sur la tête de David. Il a fait. Donc à ce moment-là, David, il est roi d'Israël ? Pas du tout. Dieu a décidé que c'était David. Shmuel a été le moindre. Mais c'est toujours Shaoul le roi. Eh oui, tant que le peuple n'a pas reconnu David comme roi, il n'est pas roi. Et je vais te dire mieux que ça. Maintenant, le peuple a reconnu David. Ok, il est roi. David, Melech Israël, Chai Chai Vekayam. Et bien, à un moment donné, où il y a son fils, Avshalom, qui fait un putsch. Il prend le pouvoir. Mais le peuple, il suit Avshalom. La majorité du peuple suit Avshalom. Qu'est-ce qu'il fait David à ce moment-là ? Il s'enfuit. Et nous dit la Guémara que lorsque David était en fuite de devant Avshalom et qu'il devenait, il devait amener un sacrifice expiatoire, eh bien il emmenait une Seira. Mais cette Seira, c'est une bouc-fille. Un bouc-fille. Comment on dit ? Une biche ?
Non,
la femelle du bouc.
La
bouctine.
La chèvre.
La chèvre, ouais, prends, en fait. La chèvre. La chèvre, Bekitsour, une chèvre. Bekitsour, alors que normalement, à Meller, on est caper Bessehir. Et pas avec une Seira. Le fait que David il décide d'amener une chèvre et pas un bouc. Ça montre que lui aussi, il est conscient que maintenant que son fils, il a le soutien du peuple, c'est plus lui le roi. Son fils est le roi. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le judaïsme, c'est vrai qu'il y a une royauté, mais c'est une royauté démocratique. C'est-à-dire que c'est pas un roi, c'est pas un président, c'est un roi. Mais il a été choisi par Dieu, mais accepté par le peuple. Et tant qu'il n'est pas accepté par le peuple, il n'est pas roi, d'après la Torah. Il en va de même d'ailleurs, pas que pour le roi, mais pour Betzalel. Betzalel, qui va faire le Mishkan, Dieu lui dit, demande au peuple juif ce qu'ils en pensent. Et Moshe il dit à Dieu, mais attends, si c'est toi qui demande, tu dis que c'est Betzalel, c'est très bien. Il dit non, tu dois leur demander d'abord. Parce que c'est à eux, c'est dans le peuple juif que réside la malroute. Donc le roi, tu as raison que c'est un roi dans le judaïsme, dans la Torah, mais ce roi, ce n'est pas du tout Louis XIV. Ce n'est pas du tout Charlemagne qui s'autoproclame roi et puis je suis un monarque absolu de droit divin. Ce n'est pas du tout ça dans le judaïsme. C'est un roi. Certes, il y a une différence entre le roi et le président ou premier ministre, puisque le roi, c'est héréditaire. Mais encore une fois, pour que le fils du roi soit roi, il faut qu'il soit accepté du peuple.
On voit bien ce qui se passe dans le monde entier avec les démocraties. Il n'y a pas qu'ici. Les démocraties, c'est un gros problème. Parce qu'il y a des confrontations d'idées, des confrontations de...
Non.
Bon, mais c'est d'accord. Non. Mais chez nous, déjà, on n'a pas besoin de ça.
Et pourquoi pas? Pourquoi pas déjà,
un peuple...
c'est... Tu dis, il y a des choses qui ne sont
deux,
pas...
Deux juifs et 5 ans.
Mais c'est ça. Donc il y a des choses qui ne sont peut-être pas... Tout n'est pas forcément bon à prendre dans la démocratie. Mais la démocratie en elle-même, c'est une valeur.
Quand il y aura Mélère Amachia, ce sera le roi.
Et qu'est-ce que je viens d'expliquer depuis 10 minutes ? Ce sera un roi qui sera accepté par le peuple. Et s'il n'est pas accepté par le peuple, eh bien, il ne sera pas roi.
Il n'y a pas besoin d'un Yérus pour...
Pour quoi ?
Pour le Mashiach.
Un Yérus pour être le Mashiach ?
Non, pour pas le Mashiach, actuellement le...
Pour être roi ?
Oui.
Pour te répondre, je veux comprendre ta question. Tu veux que le Yérus, il soit pour qui ? Pour le roi ? Pour la Mashiach ? Pour qui ?
Non, pour le gouvernant.
Pour le gouvernant. C'est quoi un Yérus ? Il faut qu'il soit Ben Israël. Nachon. Som tassim alecha melech ou mikerev achecha tassim alecha melech. Mais il faut que tu sois juif. Après, tu demandes, est-ce que pour être le Mashiach, il ne doit pas descendre de David ? Bien sûr que si. Mais c'est deux choses différentes, le Mashiach et un dirigeant. Ok ? Et je vais te dire mieux que ça. D'après la halakha, si la Knesset, elle décide de mettre à sa tête, et donc en premier ministre, un arabe, ce serait kasher al-pi halakha. Pourquoi ? Parce que c'est la Knesset du peuple juif qui a décidé de le mettre lui à notre tête. On serait à ce moment-là extrêmement bête. Mais ce serait kasher. C'est la raison pour laquelle c'est moutard aujourd'hui de suivre les ordres d'un mefaked druze. Imagine ton mefaked de l'armée. Il n'est pas juif. Je n'ai pas le droit de recevoir des ordres d'un non-juif. Si, tu as le droit parce qu'il a été mis en place par le peuple juif.
Et il tourne pour nous.
Ok ?
Et il tourne pour nous aussi.
Non, ça bichlal, c'est tzadikim, mais c'est là. Ok ? Donc, Rabotai, on a compris qu'il y a des choses qui sont très bien chez les goyim. Quand on est en galoute, on ne va pas les voir, parce que sinon, on s'assimile. Mais lorsque le peuple juif retrouve toute sa grandeur... Alors, on peut en prendre les choses qui sont bonnes. D'accord ? Ça a l'air ? Ah bien, votre parenthèse, il y a des choses qu'on a, oui, continué à apprendre chez les goïms, même quand on était en galoute. Le machal, la musique. La musique. On a continué à faire de la musique, même pas galoute. Ça veut rien dire, la musique juive ou la musique goï. C'est pas parce que tu mets du oi 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 en tant que parole... Je ne parle pas des paroles, je ne parle pas je parle de la musique. Ben je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis d'accord avec toi, ça ne veut rien dire la musique juive.
C'est le fait que, par exemple, de clarinette.
Mais quoi ? Et les ils jouent pas de clarinette. Tu vas en Irlande, ils jouent pas de clarinette.
Non.
Bon, ça ne peut peut-être pas la clarinette, ça peut être autre chose. Mais enfin bon, la clarinette n'a pas été inventée par les juifs pour les juifs.
Il faut aller au musée de la musique.
Et il n'y a pas que du klezmer. Hein. Et oui. C'est très bien, parce que Laurent il aime bien la musique et il avait le musée la musique juive. C'est-à-dire que si on connaissait les nigunim du Beth Amikdash, alors on pourrait parler de musique juive. Ouais. Mais on les connaît pas. On n'a pas les partitions. C'est très mal. Ok ? Ok, Bezeder. Mi shechachach ao. Tant depuis que la lumière s'est obstruite, il y a l'obscurité. Mishegalta shechina, mishenetku raglea uma mi bet chayea. Donc dès qu'on est parti en exil, echel atzimtzum liot nitba. À ce moment-là, on était obligé de se réduire. Kol oz chiloni alul liot le roetz. Toute force chol. Chiloni milashon chol peut te faire tomber à cause de l'exil. Kol yofi tivi vecheshko alul leafil et haor hakodesh vetam hatahara vehatzniut. La beauté naturelle, eh ben on a dit c'est pas bien, vaut mieux être moche. J'ai étudié hier soir avec mon fils. Shulom aleichem. J'ai étudié hier soir avec mon fils. On est arrivé, on étudie une demi-amoud de Gemara par jour. Et ouais, j'ai maté. Et Zakat ben Israël, vet machovai. Mais Kitzur, on a étudié la page 7 du Talmud dans le traité de Ta'anit. On est tombé sur une histoire révoltante. Vous connaissez cette histoire ? L'histoire de cette fille de César qui est venue voir Rabbi Yoshua ben Hanania et qui lui a dit « Mais comment est-ce possible d'avoir une telle sagesse dans un ustensile tellement moche ?» Parce que Rabbi Yoshua ben Hanania était particulièrement moche. Et il lui dit « Écoute, je vais t'expliquer. Ton père, César, il a des tonneaux de vin. Mais dans quoi il garde son vin ?» Il dit bah, « Dans des tonneaux en argile. » Il dit « Ben non, attends, c'est l'empereur. Il vaudrait peut-être mieux de le mettre dans des tonneaux d'argent. » Il dit « Oh, c'est pas bête. » Et il met dans les tonneaux d'argent. Et qu'est-ce qui se passe ?
Il tourne.
Ben, il tourne, ça devient de la piquette. Vinaigre. Et il dit « Ah, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui dis bah, « tu vois, c'est pour ça. » Parce que s'il est dans un tonneau moche, au moins il se garde. S'il est dans un tonneau d'argent, il commence à se la péter, il devient truc. Et ben voilà, c'est pour ça que moi, Dieu, il m'a fait très très moche, comme ça je peux être racham. Apologie de la laideur. Voilà. Achav, Mitzacheni. Ça, c'est bien beau de dire ça, mais Mitzacheni, on a plein d'autres Mahamarim dans le Talmud où on voit que c'est très très bien d'être beau. Aze bagalout, veze lo bagalout. Mais ça donne. Tov. Azak. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצדיק הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפי ארבע אלף תורות ומצוות שנאמר, אני חפץ למען צדקו, יחזק תורה ויאדיר. Amen. Amen.